Alors, bonjour tout le monde. Alors, quelle joie de voir ce grand nombre de frères et sœurs et tous les enfants. Et vous savez, on a un petit groupe qui est de comment apprendre, comment s'entraider pour apprendre à prêcher. Il y a quelques participants de l'Oasis qui sont là-dedans. Et puis, on étudie ensemble le texte sur Jésus qui prêche dans une maison, puis pendant qu'il est en train d'enseigner, il y a des gars, il y a des personnes sur le toit qui sont en train de faire un trou dans le toit au-dessus de sa tête et qui vont faire descendre un malade. Alors, c'est juste pour vous dire, les interruptions que les enfants font, c'est rien à comparer à ça. Alors, on accueille les enfants, on est heureux de les avoir avec nous et on est bénis qu'on va pouvoir présenter ce matin Aiden, Jaden et Andrew. Le message d'aujourd'hui, on continue dans Exode et le sujet ou le titre, Courage dans les épreuves. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont besoin de ce sujet-là, Courage dans les épreuves, et on trouve ça dans la suite de l'histoire, donc à partir du milieu du chapitre 4 et tout le chapitre 5. Début du chapitre 6. On est vraiment heureux d'accueillir les deux familles qui présentent des enfants ce matin, Dieufort et Dany, avec leur petit garçon, et Bicha avec aussi Carline, qui présente leurs deux enfants. Bienvenue. Et vous vous préparez, vous vous engagez à vivre la vie chrétienne avec vos enfants. C'est dans ce sens-là qu'on fait la présentation. Et une chose à laquelle vous devez vous préparer, les épreuves de la vie chrétienne, les épreuves des familles chrétiennes. Une épreuve, c'est une difficulté qu'on doit vivre. C'est une souffrance. Elle teste notre foi. Et la Bible nous dit qu'il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie chrétienne. Et je parle aux deux couples, mais en réalité, c'est pour tout le monde. Vous savez, la question n'est pas, je vous le dis tout de suite, si tu es un chrétien ou quelqu'un qui veut devenir chrétien. La question n'est pas, comment est-ce que je vais faire pour ne pas jamais avoir d'épreuves? Non, parce que la Bible nous dit qu'on va en avoir. La question, c'est plutôt, comment est-ce que je vais passer à travers les épreuves? Passer à travers mon épreuve pour devenir meilleur, devenir plus fort, devenir, vous savez, la Bible dit, et d'autres, et des chrétiens sages ont dit, que les épreuves, c'est comme le feu. Et dans le feu, il y a la paille. La paille, c'est comme le foin qui devient de la paille. C'est comme de la poussière. Qu'est-ce qui arrive à la paille dans le feu? Bien, ça brûle et puis ça disparaît. L'or, par contre, le métal précieux qui est l'or, lui va devenir un or encore plus pur. Il va être purifié par le feu. Donc, la question pour nous, on peut dire, est-ce que je suis de la paille? Non, je suis de l'or. Donc, l'épreuve que je vais passer, et vous êtes tous en train de passer des épreuves, mais des fois, quelque chose nous tombe dessus, une difficulté, une souffrance, puis on est comme pris par surprise et peut-être déçu, on se demande, peut-être que Dieu m'a oublié, Dieu me punit, peut-être. Mais en fait, même cette épreuve-là est là pour que je devienne un or plus pur. Donc, dis-toi, comme cette fille dans la photo, cette femme, je suis pas de la paille que Dieu veut brûler, non. Je suis de l'or que Dieu veut purifier. Amen? Amen, OK. La leçon d'aujourd'hui, c'est ceci, et on va le voir dans le texte, dans l'histoire de l'Exode. Derrière nos épreuves se trouve un Dieu qui est à l'œuvre pour mon bien, pour notre bien. OK? Derrière nos épreuves, il faut apprendre à voir ça avec les yeux de la foi. Il y a un Dieu qui est à l'œuvre pour notre bien. Donc, soyons lui fidèles, accrochons-nous à lui. Accroche-toi à ton Dieu dans l'épreuve. Et il va te bénir, il va te rendre plus fort, plus mûr, plus fort. Alors, ça, c'est un message qu'on voit dès le début de la Bible, mais ça a été répété dans le Nouveau Testament par les apôtres, ou ici c'est Jacques, qui n'était pas un apôtre, mais qui était un pasteur de la première église à Jérusalem. C'était, en passant, le frère biologique de Jésus-Christ par Marie. Donc, Jacques a écrit ceci aux chrétiens de la première église. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il faut que la persévérance devienne parfaite afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. » Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est quand même assez bizarre, imaginez de dire, ce malheur qui t'arrive, considère-le comme un sujet de joie parfaite. Wow! Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, mais dans la foi, on en arrive à trouver aussi même la joie dans l'épreuve. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Et on va voir dans le texte de l'Exode, Dieu en train de faire quelque chose. Et il y a l'épreuve des enfants qui pleurent et les mamans qui doivent aller consoler leur enfant. Ça aussi, Malberly, nous prions pour toi dans ton épreuve. Et je sais que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. On connaît ça. Et quelle que soit ton épreuve, mais ici, c'est les familles d'Israël. Vous allez voir, les familles d'Israël en Égypte vivent des épreuves terribles. On va lire le texte. Mais même là, ces familles-là doivent apprendre. Derrière nos épreuves, il y a un Dieu qui est à l'œuvre pour notre bien. En fait, Dieu est en train de préparer une grande libération pour le peuple d'Israël. Quelque chose qui va qui va éclater dans la joie et aussi dans la gloire de Dieu. Mais il faut tenir bon, il faut s'accrocher à Dieu durant l'épreuve. Durant les épreuves, des fois, qui s'empirent. Dieu va bénir, au bout du compte. Après toutes les épreuves, sera quelque chose de merveilleux. Mais durant les épreuves, on va être rendu plus fort. Et comme Jacques le dit, plus persévérant, plus patient et plus capable d'aider les autres aussi qui passent par des épreuves semblables. C'est le même message pour vous, Bicha et Carline. C'est le même message pour vous autres, Dani et Dieu fort et vos amis, Susanna qui est là comme marraine et Jephté. Dans vos épreuves, je suis au travail et je sais que vous vous sentez faible des fois, mais ne vous découragez pas. Accrochez-vous à moi. On va lire le texte maintenant dans l'histoire des Hébreux en Égypte. D'abord, on va prier encore. Oui, Seigneur, on a besoin de ton Saint-Esprit pour que ta parole entre en nous. Rends-nous attentifs. Et merci parce que c'est une célébration où nous accueillons les enfants d'une manière toute spéciale. Alors, donne-nous aussi d'être capable de te dire merci, même quand ils pleurent, même quand ils ne sont pas contents avec nous, les adultes. Mais nous voulons devenir meilleurs pour les guider vers toi. Nous prions toutes ces choses au nom de Christ. Amen. Alors, lisons, c'est un peu long. Je vais essayer de lire avec entrain. Donc, tantôt, la semaine passée, avec le pasteur Jean-Pierre, que j'ai vu aujourd'hui. Ah, il est là. Merci encore. On a parlé du texte juste avant, la longue conversation entre Dieu et Moïse, et les quatre objections de Moïse. Et là, on continue. Finalement, Moïse décide d'obéir. Et donc, Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse, dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu feras ces prodiges devant le Pharaon. Et de mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel. » Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de le laisser partir pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora, qui est la femme de Moïse, Séphora, prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit, « Mari de sang à cause de la circoncision. » L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert. » Aaron était en Égypte, lui. « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit, rencontra Moïse à la montagne et Dieu, et il embrassa Moïse. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils rassemblèrent tous les anciens des Israélites qui étaient en Égypte. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Et ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. C'est pas fini. Restez avec moi. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel. Je recommence tout. OK, mais là, j'entends pas de d'amplification pour le moment. OK? Oui, OK. Ah, j'étais en train d'imiter le pharaon, puis je trouvais que je faisais ça bien. J'ai essayé de prendre ça. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, Pourquoi détournez-vous le peuple de leur travail? Retournez à vos corvées. Et le pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous feriez interrompre ses corvées? Et le jour même, le pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Hop, excusez-moi, j'avais manqué la diapo. Ce sont des paresseux, et voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés, ils ne prêteront plus attention à ces paroles mensongères. » Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple, voici ce que dit le pharaon, « Je ne vous donne plus de paille. » Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car on ne supprime rien de votre travail. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs disaient, « Terminez votre tâche, chaque jour la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. » Et on s'est mis à battre même les commissaires des Israélites, établi sur eux par les inspecteurs du pharaon. Donc, il y avait le pharaon, il y avait les inspecteurs égyptiens, et puis ils avaient nommé des Juifs, des Israélites, comme des espèces de foremen, des espèces d'inspecteurs, mais qui faisaient partie des esclaves. Et ces inspecteurs-là devaient donner des ordres à leurs co-israélites. Et on s'est mis à les battre. Pourquoi, disait-on, n'avait-on pas fini hier et aujourd'hui comme avant la même quantité de briques? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au pharaon en disant, « Pourquoi tu traites ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on vous dit, faites des briques. Et voici que tes serviteurs sont battus comme si le peuple était coupable. » Le pharaon répondit, « Vous êtes juste des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allez offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. Allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne supprirez rien de vos briques. » Et en sortant de chez le pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. C'est la dernière diapo. Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. Ils se sont fâchés avec Moïse et Aaron à cause de vous. Le pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que du dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Moïse et Aaron retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce que c'est pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je vais faire au pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Amen. Merci d'avoir écouté ce long texte. Et si on arrêtait là, l'histoire, c'est une histoire pas mal décourageante. Mais l'histoire ne se finit pas là. On va regarder ce matin quelques-unes des épreuves qui sont dans cette partie de l'histoire pour le peuple de Dieu et qui s'empirent On va essayer de voir comment les hommes le perçoivent, mais aussi qu'est-ce que la Bible nous dit sur le Dieu qui est à l'œuvre derrière. Ça, c'est important pour vous. C'est important pour moi aussi. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de préparer quelque chose de grand pour son peuple. Et il utilise même les épreuves. Première épreuve que je veux mentionner est très bizarre. La famille de Moïse est attaquée. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette partie-là. Durant le voyage de la famille vers l'Égypte, un texte très mystérieux, chapitre 4, versets 22 à 24, il est attaqué par Dieu. C'est-à-dire tout simplement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un ange qui vient durant la nuit, pendant qu'il dorme, pour s'attaquer physiquement à Moïse? Est-ce que c'est peut-être une maladie qui a soudain sévi sur la famille? C'est pas expliqué. J'ai lu plusieurs commentaires. Ils ont toutes des théories différentes. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de Dieu pour vraiment troubler, attaquer la famille durant leur sommeil. Et ce qu'on découvre, c'est que dans le background spirituel de Moïse, dans son cheminement, vous savez qu'il a été élevé par les Égyptiens. C'est un Israélite élevé par les Égyptiens et il n'a pas été pleinement formé comme il faut dans les voies de Dieu et apparemment, il n'a pas bien saisi l'importance de la circoncision comme le rite nécessaire d'entrée, en tout cas pour tous les garçons, mais en fait, les familles doivent le célébrer autour de chaque garçon qui naît. C'est comme ça que ça se passait depuis Abraham. Et clairement, Moïse n'a pas circoncis son fils aîné Guertchom. Problème. Dieu intervient ici pour que lui et sa famille comprennent l'importance de ce rite pour entrer dans l'Alliance. Oubliez pas que Moïse va devoir enseigner ces choses au peuple. Puis lui-même, il y a comme des choses pas réglées encore. Il n'a pas encore circoncis son fils. Mais la chose intéressante, on a parlé la semaine passée de la longue conversation entre Dieu et Moïse. Dieu appelle Moïse, lui donne plein d'instructions, mais il lui mentionne pas ce problème-là que, en passant, Moïse, Guertchom n'est pas circoncis, faut régler ça avant que tu partes. Et non, Moïse obéit à Dieu, il part, et puis il y a cette autre intervention de Dieu. C'est quand même assez bizarre. Alors, Dieu garde son mystère, il est souverain, mais moi, ce que je comprends, c'est que Dieu voulait que Séphora, la maman, soit impliquée. Tout se passait avant ça entre Moïse et Dieu, ou entre Moïse, Jéthro, le père de Séphora, et Dieu. Ici, on voit que Séphora, la maman, est obligée d'être impliquée. Et comme ça, toute la famille va réaliser, OK, on va enseigner la circoncision. C'est sérieux pour Dieu. Et vous savez, les rituels ou les symboles d'entrée, les gestes d'obéissance comme ça dans la communauté, ils sont importants, même dans la famille de Dieu. Et c'est pour ça, moi, je me réjouis que plusieurs familles de l'Oasis qui ont peut-être eu un parcours, on va dire, un peu comme Moïse, c'est-à-dire une vie compliquée avant d'arriver à l'Oasis, eh bien, maintenant, c'est votre occasion de présenter des enfants au Seigneur. Maintenant, c'est votre occasion de vous faire baptiser parce que vous comprenez, peut-être vous compreniez avant, je dois m'engager pour suivre Christ. Et c'est maintenant que Dieu vous donne l'occasion. Le mariage aussi. Le mariage aussi, c'est un rituel, une obéissance qu'on doit faire quand un couple vit l'amour, mais ça se fait dans le mariage et Dieu le demande. Et donc, il n'est jamais trop tard pour entrer dans ces gestes d'obéissance. Donc, je me réjouis avec vous, Carline et Bichat et Danny Dieufort. Vous faites un de ces gestes ce matin. D'autres vont se marier au mois de décembre. C'est merveilleux. On continue de prier pour... on pense à Elson, Mirland, très bientôt. Ça va être merveilleux, le mariage. Mais il y a aussi Albertina et Junior. Je ne sais pas s'ils sont ici ce matin. Et il y en a d'autres. Il n'est jamais trop tard, mais en même temps, quand tu comprends que c'est le temps, et il ne faut pas faire attendre le Seigneur. Donc, ça un peu qu'on voit qu'avec Moïse ici, il y a un côté un peu, OK, là, c'est le moment, là. C'est le moment de circoncire Gershom, et puis c'est cette nuit. Une histoire quand même difficile, mais qui nous enseigne. Une épreuve qui va amener la bénédiction. Deuxième épreuve, Dieu dit que le cœur du Pharaon va être endurci. Une autre situation qui est mystifiante. Dieu dit ceci, « Moïse, je veux libérer mon peuple, puis c'est à travers toi. Puis tu sais quoi? Tu te sens faible? » Mais c'est pas grave, je vais te donner des paroles qui viennent de moi. Quand tu vas parler au Pharaon, je vais te donner des paroles, je vais même te donner un helper qui va parler à ta place, je vais même te donner des pouvoirs surnaturels avec un bâton, avec ta main, puis avec l'eau du Nil. Je vais même accompagner tes paroles avec des miracles, des prodiges extraordinaires. Puis en plus, cerise sur le gâteau, je vais endurcir le cœur du Pharaon, puis il va te dire non. C'est quand même un plan bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? Il me semble que toutes ces autres choses, c'est pour que le Pharaon dise oui. Mais non, le Pharaon dit non. En fait, le texte nous dit, et puis on va le voir, au fur et à mesure qu'on voit les conversations avec le Pharaon, et où il continue de dire non, Dieu est en train de préparer une crise. Une crise, une grande crise. Où ça va faire exploser la confrontation avec le Pharaon, mais faire exploser aussi sa gloire. Et comme ça, la libération d'Israël va être d'autant plus merveilleuse et mémorable. Amen. Alors, des fois, ton problème s'empire, mais la libération devient plus mémorable. Et Israël va s'en souvenir et on en parle jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, Dieu veut se faire connaître au Pharaon. À travers cette situation de confrontation et de crise. Le Pharaon est très arrogant et il ne connaît pas Dieu. Je ne connais pas l'Éternel. C'est quoi cette histoire-là que ce Dieu-là vous demande de partir? Là? Je ne connais pas ça, moi. Et c'est comme Dieu est derrière et dit, « Ah, tu ne me connais pas encore? Bien, attends un peu. » Je vais me faire connaître à toi, là. Je vais me présenter à toi. Et c'est vrai que dans le cas de Pharaon, on dirait que ça finit mal. Que c'est merveilleux quand quelqu'un d'obstiné, d'arrogant comme ça peut se repentir et devenir un enfant de Dieu dans ce moment de crise et de confrontation. Deux leçons pour nous à travers cette épreuve que je veux vous présenter ce matin. Premièrement, le Pharaon, c'est un c'est un une leçon pour toi et pour moi. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir par rapport à ce que Dieu te demande, par rapport à sa parole. Même un chrétien peut être dur de cœur par rapport à un commandement de Dieu ou à quelque chose que l'Esprit Saint est en train de me dire. N'endurcis pas ton cœur. Et donc, c'est une prière que nous devons tous avoir. Seigneur, toi qui tiens mon cœur dans ta main, adoucis mon cœur pour que aujourd'hui, pour que chaque jour, je sois ouvert à t'entendre. Des fois, c'est les distractions, des fois, c'est les épreuves, des fois, c'est le manque de foi. On n'est pas à l'écoute. Et pourtant, Dieu essaye de nous parler. Dieu, il est patient avec toi. Mais prie ceci, Seigneur, adoucis mon cœur et ouvre mes oreilles spirituelles. Que je ne devienne pas comme le Pharaon qui, regardez comment il a terminé. Ben, vous le savez si vous avez déjà lu l'histoire. L'autre leçon que je veux vous dire ce matin, c'est qu'on est tous en train de prier, je pense, pour des situations dans le monde qui sont vraiment bloquées à cause de, entre autres, de cœurs humains endurcis. On pense à des situations nationales, des situations politiques. Croyons que Dieu est à l'œuvre. Croyons que Dieu est plus grand que les hommes, que Dieu est en contrôle. Croyons que son plan est bon. Moi, je pense à la nation d'Haïti. Et même si je ne suis pas haïtien, mais je prie pour Haïti de plus en plus. Et je pense à ma vie de prière pour la situation dramatique d'Haïti. Et c'est comme les Israélites en Égypte. On dirait, chaque fois que je prie, ça s'empire. La situation va de mal en pis. Et je me dis, mais Dieu est quand même en contrôle, il est puissant. Est-ce qu'il est en train de préparer une grande libération pour ses enfants en Haïti? Et que, un peu comme avec le Pharaon, ça va finir par quelque chose de grand. Une explosion de sa libération pour sa gloire et pour le bien de ses enfants et toute la population. En tout cas, je vous propose de prier dans ce sens-là pour Haïti. Êtes-vous avec moi? Amen. Prions pour Haïti. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas. C'est une île avec tellement d'enfants de Dieu qui sont là, qui prient, qui travaillent. Et je veux dire, les épreuves de ce peuple, on peut pas imaginer. Et beaucoup de gens qui sont ici ce matin sont ici à cause de ces problèmes. Maintenant, la troisième épreuve, on va terminer avec une troisième épreuve ici, c'est ce que vivent les ouvriers, les ouvrières, les familles en Égypte. Injustice sociale, injustice de travail, injustice économique, injustice politique. Qu'est-ce qu'on voit dans la réaction des autorités? Encore plus de travail pour vous. Hein, toute cette histoire des briques. Moins de ressources pour faire votre travail et probablement moins de rémunération aussi. Ben, c'est des esclaves, alors peut-être il y a zéro rémunération de toute façon. Alors, comment ils vivaient? En tout cas, certainement, il n'y avait pas d'augmentation de ressources ou de rémunération, de nourriture. Plus de surveillance, plus de punition. On voit que les responsables égyptiens se mettent à battre les foreman israélites. Donc, répression par la violence. et fausses accusations aussi. Je veux dire, imaginez là, puis je sais que j'en connais quelques-uns qui ont fait ça dernièrement et qui l'ont fait avant, aller voir leur patron ici à Montréal et dire « J'aimerais ça que mon jour de congé, ça soit dimanche pour que je puisse adorer mon Dieu. » Puis imaginez que le patron dise « Dieu, ben je connais pas ton Dieu, pour moi Dieu n'existe pas, c'est parce que tu es paresseuse que tu me demandes ça. Retourne au travail, puis je vais te mettre en bas de la liste pour les congés du dimanche, parce que tu es une espèce de paresseuse. » C'est quand même une fausse accusation. C'est quand même... Je dis pas que c'est ça que ton patron t'a dit. Peut-être que oui. Mais en tout cas, c'est comme ça que le pharaon réagit. Il tord la vérité. Lui-même adore ses dieux. Il doit prendre du temps pour adorer ses divinités à lui. Il comprend bien. Il comprend bien qu'un peuple a besoin d'adorer son Dieu. Tout ça, ça mettait beaucoup de pression sur les familles, les papas qui vivaient ces humiliations-là, les mamans qui devaient gérer un budget familial complètement insuffisant, qui se faisait peut-être exploiter d'autres manières par les Égyptiens, les enfants qui devaient trouver leur chemin et trouver un espoir pour l'avenir en voyant leurs parents souffrir. Fallait tenir bon, fallait continuer à croire en Dieu, que Dieu était à l'œuvre, que ses promesses étaient vraies. Pas se laisser aller au désespoir. Laisse-toi pas aller au désespoir quand tu vis de telles choses, des injustices, des frustrations d'être étranger dans un nouveau pays, comme les Israélites ici. Et ne te laisse pas aller non plus à donc des disputes entre chrétiens. Parfois, on va blâmer le pasteur. Ben ici, c'est Moïse. C'est ta faute, Moïse. Tu nous dis d'être fidèle à Dieu et puis les choses s'empirent. C'est ta faute. Alors, oui, un pasteur, des fois, peut faire des erreurs, mais faisons attention. Si Dieu nous appelle à rester fidèles et que c'est difficile, le réflexe de blâmer peut-être mon Église, faut y penser deux fois. Parce que des fois, c'est difficile de persévérer. On va peut-être conclure maintenant. Juste, je vous rappelle la leçon d'aujourd'hui. Derrière tes épreuves se trouve un Dieu qui est à l'œuvre pour ton bien. Accrochons-nous à lui pour qu'il nous rende plus mûrs et plus forts. Bicha et Carline, Danny et Dufort, je vous invite à cultiver cette vie de fidélité, de persévérance avec Dieu. Dans les épreuves, il va y en avoir. Il y en a déjà, je le sais. Et pour terminer, j'aimerais juste raconter un souvenir de mon enfance. Une fois où j'avais vu mon père faire son possible pour pratiquer ce qu'on vient de dire. En tout cas, je m'en suis souvenu. Mon père... C'était un homme qui travaillait très fort, un immigrant lui aussi. Il venait du Moyen-Orient et était très souvent stressé par ses responsabilités, mais quand même, il nous amenait en vacances. Et cette année-là, je ne sais pas quel âge j'avais, mais on avait fait des longs trajets en voiture. On était 6 enfants, ça veut dire 8 humains dans une grosse voiture. Et c'est drôle, à cette époque-là, pas de siège de bébé, pas obligé de porter des ceintures de sécurité. On se promenait dans l'auto quand il y avait des virages. Des fois, on était couchés. par terre. On était nombreux dans l'auto. Mais le Seigneur nous avait bénis, même que le monde fumait dans l'auto. En tout cas, mes parents fumaient pas, mais c'était une autre époque. En tout cas, on était revenus sains et saufs à la maison après de longs trajets. On était contents, on a eu de belles vacances et tout le monde était dans la maison, sauf mon père qui était sorti pour s'occuper de quelque chose avec la voiture. On était en train de décharger, je pense, et vers la fin. Puis tout d'un coup, mon papa, il rentre dans la maison, il tenait un gros clou dans sa main. Il tenait le clou en haut comme ça et il dit à tout le monde, « Les enfants, c'est le moment de remercier Dieu. Regardez ce que je viens de retirer d'un des pneus de la voiture. » Et donc, la voiture avait dû passer à pleine vitesse sur ce clou lorsqu'on roulait sur l'autoroute avec toute la famille à bord, sans ceinture de sécurité. Par la grâce de Dieu, le clou n'a pas explosé ni dégonflé soudainement. Et on est tous rentrés sains et saufs. Et je me souviens que mon papa, malgré que c'était pas quelque chose qu'il faisait souvent, non. Et puis, malgré le fait que c'est quand même pas facile de réunir des enfants puis des adolescents récalcitrants, il nous a invités à prier Dieu. Et ça, je m'en suis souvenu de ça. Alors, cultivons cette manière d'être, vous les parents, nous des parents et des grands-parents, pour inviter les jeunes, inviter les familles à reconnaître Dieu dans nos vies. Un peu comme Pablo a fait ce matin, et il a entendu la voix de Dieu, une leçon de Dieu à travers son épreuve, et on a remercié Dieu ensemble avec lui. Merci Pablo. Faisons ça en tant que parents dans nos familles. Amen.